Continuer la discussion et l'échange, mais en accueillant, et je les invite à nous rejoindre sur scène, Alain Raguido, ancien président du SINA, Benoît Thierry, directeur général associé de Thierry Immobilier, et Juliette Maître, elle est directrice de projet au sein du CEREMA, qui a été évoqué. Je vous propose qu'on les accueille. Bienvenue. Ça, c'est la petite musique qui réveille. Bon, la première question, c'est une réaction un peu à chaud sur les propos de Philippe Madec. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, de partager?
Moi, je veux bien reprendre. Enfin, il y a plein de choses particulièrement intéressantes et qui nous interpellent. Mais j'en prendrais bien au moins une phrase qui m'a un peu interpellé. C'est de, quand vous dites qu'avec les élus, c'est de ne plus administrer, mais s'engager. Et on souffre beaucoup quand même, alors on a tous nos parts de responsabilité, mais on souffre beaucoup de cette question qui est plutôt pesante de l'administration de toute œuvre, tout ce qu'on a à faire. Quand vous parliez du temps en gros de l'exécution, mais vous mettez le même temps avant pour sortir des projets, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Et quand on sait les besoins, on en reparlera peut-être sur les défis, etc., des besoins de se loger, etc., on se dit qu'il y a quand même un gros boulot à faire là-dessus. Et donc le fait de pouvoir changer de paradigme et d'encourager en fin de compte l'ensemble des acteurs, on va dire les publics, qui quand même c'est eux qui amènent les règles urbanistiques, enfin le temps, puisqu'on a parlé aussi du temps, je pense que, enfin moi je rebondis là-dessus, et c'est vrai que cette notion d'engagement pour moi elle serait importante, assortie d'objectifs, c'est-à-dire ok, mais on se dit c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on veut sortir, comment on veut loger les gens notamment. Enfin, je pense surtout au logement, parce que c'est là où on a les problèmes les plus importants.
Merci. On continue, c'était pas forcément une question,
deux
c'était
choses
plus
très
une
rapidement.
Réaction.
L'écoute attentive des besoins des futurs occupants, et on a la chance en tant que syndic de travailler maintenant les mains dans la main avec les promoteurs depuis 4-5 ans, et d'être concerté, et de se dire on va créer un ouvrage pour le besoin des occupants, et faire vivre l'immeuble dans la durée, donc ça m'a évidemment intéressé. Et puis la deuxième chose, c'est le lien futur qu'on va créer aussi par les bâtiments, par la façon dont ils ont été construits, avec le lien avec la nature. Donc ce lien est important.
Merci beaucoup, Juliette.
Alors moi je suis contente qu'on ait gagné la bataille des idées. Quand j'étais étudiante, comme le représentant de ce matin, on me traitait d'utopiste quand on parlait d'aménagement durable. J'espère qu'on va gagner la bataille du fer maintenant. Voilà. Donc, mais au moins, si on a gagné la bataille des idées, je pense que c'est déjà
une première
bon
étape
début.
Maintenant. Faut faire.
Merci beaucoup à tous les trois. Alors Alain, est-ce qu'on peut relever tous ces défis? Et si oui, on fait comment? En tout cas, on commence par quoi pour s'engager très concrètement, mettre la première pierre? Je n'ai pas dit par pain, hein, la première pierre. Pardon.
Les défis sont nombreux. Enfin, depuis ce matin, on les évoque en fait. Directement et indirectement. Bon, le premier qui est un peu le fil rouge de la journée ou le fil vert, j'en sais rien, qui est le défi au niveau du climat, de l'énergie, et donc comment on arrive à faire aussi de la résilience, d'avoir des justement de. Alors moi j'aime bien le mot frugalité, etc. Et le mot de faire plus avec moins, parce que c'est aussi ça. Enfin c'est d'ailleurs c'est assez constructiviste, j'allais dire, parce que prenez même dans le monde de l'automobile, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment les Japonais à la belle époque, où l'idée c'était l'entonnoir. On partait avec, pour faire une voiture, il fallait, je veux dire n'importe quoi, 50 pièces, et l'objectif c'était de dire comment on fait pour faire la même voiture, enfin, ou une voiture identique, qui va répondre aux mêmes besoins, mais il nous faut plus que 30 pièces, etc. Donc on imaginait déjà des choses comme ça, etc. Ça on l'a un peu beaucoup oublié dans nos métiers. Donc ça c'est un premier sujet. Bon, le premier défi aujourd'hui, quand on est concret, quand on est sur le terrain, c'est de se loger. Comment on fait pour loger tous ces habitants qui ne trouvent pas à se loger, soit en étant propriétaire ou locataire, c'est même pas tout à fait, enfin on s'en fiche, les deux sujets. Comment on loge nos jeunes, comment on loge les jeunes actifs, comment on loge les étudiants, comment on loge les gens, comment le personnel, comment saisonnier dont on a beaucoup besoin, dont on va avoir tous besoin cet été quand on va vouloir aller déjeuner au restaurant, aller à l'hôtel ou peu importe, ou pouvoir bénéficier des services. Ça c'est un vrai, vrai enjeu. Ce qui est assez curieux, moi ça m'interpelle beaucoup, c'est que il y a une conscience politique, collective, citoyenne très forte, Mais quand on commence à vouloir rentrer dans le cœur du sujet, il y a une espèce de recul, de distanciation qui se fait. On n'aime pas trop le changement, donc c'est vrai qu'à la limite, on est prêt à écouter et se dire, bon, ben, ok, du moment que ça se fasse ailleurs et pas à côté de chez moi. Et ça, c'est un sujet que je trouve particulièrement préoccupant. Le déficit en nombre de logements, pour sortir des chiffres, mais qui se chiffre quand même en centaines de milliers par an en France, on ne voit pas de grandes mesures fortes, incitatives pour aller dans ce sens-là. Donc moi, je pense que ça, c'est un des premiers sujets. Bon, vous ne m'empêcherez pas de parler du défi économique, parce que là aussi, si je reste sur ce domaine du logement, je vais prendre simplement deux, trois chiffres pour pas que ce soit trop long, notamment avec la disparité logement social et logement dit libre, on est arrivé à des situations qui deviennent impossibles à tenir, enfin c'est intenable quand on a des prix qui sont bloqués depuis tant d'années, à des prix bas qui sont inférieurs au coût de construction et que la compensation se fait par le libre et puis ben, on en rajoute. Et on arrive, nous, dans des villes comme Nantes, à avoir des logements libres qui se baladent entre 5 500 et 7 000 euros du mètre carré. On est à Nantes, quoi. Enfin, et là, on se dit qui est capable de mettre des prix comme ça pour aller se loger. Donc on a bien aussi des gros sujets économiques. Là aussi, on essaye de travailler avec le politique qui a quand même la main sur un certain nombre de critères. Donc ça me paraît important. Et puis, je vais terminer, ça va être trop long, sur un défi que je dirais pédagogique. C'est-à-dire, et ça rejoint à tout ce que vous nous avez très bien présenté, c'est comment on accompagne ce changement de mentalité. On voit bien que les gens, les citoyens comprennent que tout ça, ça change énormément. On a bien mis l'accent maintenant plus sur les usages, et ça aussi c'est très bien. Vous parliez tout à l'heure, ça peut paraître tout simple, mais l'histoire de ventiler un logement, enfin, j'ai l'impression d'être dans la maison de mes grands-parents. Il n'y avait pas de chauffage. Alors évidemment, bon, la maison n'était pas construite pareil, peu importe, mais il y avait plein de bon sens, etc. Donc on est en train d'y revenir, mais comment on fait pour accompagner ces changements de mentalité, et c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, la question d'acceptabilité, je dirais au sens large. Je ne vais pas revenir non plus sur versus verticalité, versus non-étalement urbain, enfin le grand sujet dont on n'arrête pas de parler et auquel on ne trouve pas forcément des réponses.
Heureusement, il y a le SINA pour veiller, observer. Non, je le dis en rigolant, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir cet outil, ce recul, pour anticiper. Est-ce que c'est le bon mot, ou en tout cas essayer de le faire?
Puisqu'on est aux 30 ans, moi je dirais que l'une des forces du SINA, je crois depuis toujours, Jean Delaveau qui est le créateur est là et je pense qu'il ne dira pas le contraire, le SINA pour moi il a toujours été devant à tirer et pas derrière à pousser, si je devais donner un peu une image. Ça a toujours été un lieu avec beaucoup d'échanges. C'est une filière immobilière, on s'entend bien, on n'est pas ici des promoteurs, on n'est pas ici des notaires, on n'est pas ici. On est tout l'ensemble de la filière qui accepte de travailler ensemble pour le mieux commun, on va dire. C'est peut-être des grands mots, mais c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. Et donc on essaye d'être force de proposition, de faire des analyses. Hein. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de tout ça, au niveau de nos observatoires, par exemple, qui nous donnent des éléments très précis, des remontées du terrain, tous les trimestres, donc ce n'est pas décalé, ce n'est pas des statistiques d'il y a 2 ans. Donc on a des choses très concrètes et sur lesquelles on essaie de faire d'être force de proposition pour faire avancer les choses, y compris dans des sujets très transverses. Enfin, juste une petite anecdote, il y en a qui vont s'en souvenir. En 2019, on a osé faire venir un économiste suisse pour nous parler de la microtaxe et pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour virer la TVA et enlever les impôts, parce qu'en Suisse il y a tout un mouvement qui est en train d'essayer de faire ça. Ils n'y arrivent pas d'ailleurs, parce qu'au bout du bout ils sont retoqués, mais voilà. Donc on est quand même capable d'aller chercher des sujets un peu décapants, voilà.
En faisant venir Philippe Madec, par exemple, entre autres. Merci beaucoup Alain. Benoît, un petit mot quand même sur l'entreprise familiale créée par votre arrière-grand-père.
Oui, très vite. Thierry Mobilier s'est créé en 1924 par mon arrière-grand-père. On est 3 associés. quatre métiers. Et puis comme s'occuper des usagers des immeubles locataires, propriétaires, copropriétaires, ça prend du temps. Malgré le numérique, malgré le digital, on est 170 personnes pour gérer un petit peu plus de 500 immeubles et 5000 lots de gérance. Les défis ?
Bah ouais, parce qu'on peut parler de mutation pour vous comme pour tout le monde finalement.
Exactement.
C'est quoi pour vous les défis d'aujourd'hui ?
Les défis de la copropriété, c'est évidemment de faire un ou plusieurs pas de côté, puisque les défis, c'est de recréer du lien social dans les immeubles pour évidemment favoriser les échanges et puis faire émerger des idées collectives autour de l'économie circulaire et de comment on peut finalement préserver les ressources. Donc ça, c'est important. On revient sur le lien, évidemment, et la mixité par rapport à ce que nous disait Jean-Viard tout à l'heure. Le deuxième défi, c'est ce dont on parlait. Bien sûr, il y a les promoteurs qui font du neuf, mais finalement, moi, sur les 500 immeubles qu'on gère, ou un petit peu plus, il y a plus de 90%, ils sont plus neufs. Hein. Ils l'ont été, mais ils ne le sont plus. Comment on arrive à les réhabiliter ? Donc, c'est former nos collaborateurs pour accélérer la rénovation énergétique, les former techniquement, et puis aussi, finalement, les former à devenir des vendeurs de rénovation. Là, on a un exemple. On a fait notre plus gros chantier qui a duré 3 ans, 1,5 million d'euros de travaux pour 44 logements. Alors, heureusement, il y a l'ADEME qui a pu prendre en charge 40%. Grâce à ces travaux, on va économiser 65% d'économie de ressources, hein, électricité, enfin gaz, évidemment en changeant la chaudière. La chaudière, ça va être plus de 37% d'économie sur les 67%. On en a profité pour ajouter des balcons. C'était une anticipation de l'architecte avant le Covid, mais c'était carrément bien vu. Et on a fait quelques études pour l'instant sur les premiers logements qui sont déjà revendus. Et il y a une valeur ajoutée de 35 à 40% du prix de la vente. Mais finalement, pour vendre des travaux comme ça, on est évidemment accompagné. C'est très important. Mais il faut que nos gestionnaires de copropriété, ils deviennent aussi des vendeurs de solutions avec des retours sur investissement qui sont très très longs. Le troisième défi, parce qu'on n'a qu'une heure, c'est évidemment de faire rêver nos gestionnaires de copropriété. La copropriété, c'est de l'administratif, c'est de la comptabilité, c'est du technique, et comment finalement leur donner du sens, parce qu'ils vont pouvoir devenir acteurs de ces enjeux, de ces mutations environnementales et sociales. Et la RSE, c'est les 5 piliers. Mais finalement, dans nos métiers, la RSE, c'est redonner du sens ensemble. Donc, quand ils sortent de l'ESPI, je ne sais pas où est Valérie aujourd'hui, souvent, ils veulent aller chez vous, promoteurs. Mais nous, on veut leur dire que le métier de la copropriété, ça fait du sens, ça en fera encore plus demain. On a vraiment besoin de ressources pour relever tous ces enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. Voilà.
Ça peut être quoi la place du syndic dans ces changements nécessaires ? Et on peut faire peut-être un petit focus sur le projet Révèle ta copro.
Alors rapidement, si je reprends Jean-Viard, le gestionnaire de copropriété de demain, c'est un chef de file. C'est quelqu'un qui va impulser une dynamique et puis trouver des leaders dans ces copropriétés, qui soient d'ailleurs locataires ou copropriétaires. Nous, on a vraiment changé de paradigme il y a 2-3 ans en disant normalement le syndic s'occupe des copropriétaires. C'est fini. Nous, on s'occupe des usagers de l'immeuble et on fait en sorte qu'ils communiquent entre eux. Et donc, Révèle ta copro, Cécile, c'est un pas de côté. On a travaillé avec Openland, que je sais, Virginie connaît, parce que finalement, nous, on est un peu focus dans notre métier. Et on leur a demandé de dire mais comment on peut inventer le métier de demain. Donc, Révèle ta copro, c'est un appel à projet qu'on a lancé auprès de tous nos immeubles. Et on s'est dit, on va faire de la R&D. Un syndic ne fait pas de R&D. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas. Donc, on s'est doté d'un budget de 25 000 euros et on a dit à toutes nos copropriétés, discutez entre vous, locataires, propriétaires, et faites émerger des idées, des solutions, un collectif qui va répondre à deux idées importantes. Soit ça crée du lien, évidemment, soit ça protège, ça développe la biodiversité et l'environnement. Soit ça fait les deux et c'est parfait. On a eu 24 dossiers. On a créé un jury interne et puis externe, avec un promoteur et quelqu'un de la Samoa. On a validé 12 dossiers. Sur les 12, il y en a finalement 9 qui ont été acceptés par l'Assemblée Générale. puisque même si on finançait tout ou partie de ces projets, il fallait quand même passer par évidemment le côté juridique. Et donc on accompagne ses clients sur des potagers partagés, on accompagne ses clients sur le fait de verdir des cours, sur la mise en place de compost, toujours accompagné d'ateliers. L'idée n'est pas de mettre un compost, de le laisser vivre ou pourrir au fond du jardin. À chaque fois, c'est des ateliers.
Pourrir, c'est l'ambition même d'un compost.
Qu'on fait avec des associations. Donc le syndic de demain aussi, pour revenir là-dessus, c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui coopère avec son écosystème. On n'arrivera pas à faire tout seul. Les derniers exemples, c'est rénover évidemment des salles communes, et c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien social. On voit que finalement, même si le numérique nous aide dans nos métiers, rien ne vaut finalement les échanges et les réunions.
C'était
et finalement, boire un verre ensemble, ça aide considérablement à se rapprocher de ses voisins. Voilà.
Donc ce lien sociale et cette économie sociale et solidaire, c'est le bon combo, si on veut le dire comme ça. Vous auriez besoin de quoi aujourd'hui pour faire mieux avec moins?
Alors, libérer nos énergies. Alors, je ne vais pas faire un cours hyper vite, mais la loi de la copropriété, c'est le 18 juillet 65. Hein, c'est vieux. Après, on a eu la chance d'avoir l'arrêt Novelli. La loi SRU en 2000. L'arrêt Novelli en 2010 qui a encadré notre mandat de syndic, parce qu'on n'est pas des gens sérieux, la loi Allure, la loi SRU, donc on parle juridique, on parle copropriété en difficulté, c'est vrai qu'elles existent, mais à aucun moment, dans toutes ces lois, dans tous ces décrets, on a parlé du mieux vivre ensemble. À aucun moment, dans toutes ces lois, on a parlé de l'habitat. C'est pas se loger, c'est l'habitat. Et finalement, moi, j'aimerais un peu plus de liberté pour innover et expérimenter dans nos pratiques de copropriété. Donc, révèle ta copro, c'est ça, c'est un pas de côté pour essayer des choses.
Philippe Madec, c'est quoi votre regard sur ce pas de côté en particulier et sur la complexité de la copropriété, ou peut-être sur les contraintes qui vont avec aujourd'hui?
Je pense que c'est la bonne dimension sur le mieux vivre ensemble. Dans des situations beaucoup plus complexes que je les connais, mais je ne les vis pas toujours. Et je pense que, en fait, votre métier doit aussi changer de physionomie. Et je vous entendais réagir au propos de Viard, et je pense que cette dimension sociétale-là, c'est sans doute celle qui est attendue aussi. Et voilà. Donc, mais si je peux aussi rebondir, excusez-moi, sur vos propos à propos du financement, pas du financement du logement, mais je vais dire mon mot aussi sur ça. Il y a tellement de logements vides sur lesquels il n'y a pas de décisions qui sont prises, sauf dans quelques communes où on taxe les logements vides et où on aide les propriétaires qui n'ont pas les moyens de mettre aux normes leur logement pour les louer. C'est une décision municipale, c'est un engagement municipal pour moi, pas juste une administration municipale. Je pense qu'on ne parle pas assez des banques sur le financement du logement. Et je pense que s'il y a un Grenelle à faire pour le logement, c'est bien sur le financement du logement. Et que si on réfléchissait aussi à rendre plus cohérente et plus large la dissociation du bâti et du foncier, ce serait aussi plutôt très intéressant. Je pense qu'il y a plein d'outils. Vous voyez, nous, architectes, on voit arriver de plus en plus de propositions, de consultations sur des transformations d'immeubles de bureaux en logement, y compris des parkings silos en logement. Enfin, tout ça est en train d'évoluer vraiment. Et il y a une niche là qu'il faut absolument qu'il faut prendre pour arrêter de dire il n'y a pas assez de logements. Il y a la place pour ça. Enfin, 4 millions et quelques de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Il y a 2 ans, ils en livraient encore 1,5 million. Donc, on marche sur la tête. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Voilà. Il y a de la place pour faire vos métiers. Il y a certainement des conditions différentes à faire. Mais moi, je pense que le rôle des banques, là, il serait temps qu'on le mette quand même au clair. Quoi.
Merci beaucoup, Philippe. On va continuer avec Juliette. Ça tombe bien, puisqu'on va parler de ZAN. la zéro artificialisation nette, ce joli terme pas si simple à appréhender. Juste quelques mots pour nous rappeler le rôle du CEREMA et surtout votre mission en particulier en tant que directrice de projet. Vous êtes aussi architecte et urbaniste de formation, élève à l'époque.
Alors, pas
entre
élève,
autres, non, pas élève.
Pas élève, mais on s'est croisés à l'époque.
Ah,
mais
d'accord, j'avais
élève.
Mal compris.
Presque, ça aurait pu. Alors, le CEREMA, je sais pas, vous ne nous connaissez pas forcément, on a été cité ce matin. Donc, nous, on est un établissement public. Alors, on n'est pas l'État, mais on est sous tutelle de l'État, sous tutelle des ministères en charge de nos thématiques. Alors, on attendra la semaine prochaine pour que je vous donne le nom des ministres, hein, parce qu'on ne les connaît pas encore. Donc, on est en charge des questions d'aménagement, de mobilité, d'adaptation au changement climatique, de transition, de bâtiment. Aussi, vous nous avez cité là-dessus. Et on essaye maintenant de plus en plus de se positionner. Alors, j'ai pas la zapette, alors...
La zapette. Merci Philippe. Merci beaucoup. C'est bon.
Donc voilà, nous on essaye de se positionner, ça a été dit pour ce bâtiment, notre rôle c'est plutôt un rôle de tiers en fait. On est entre l'État et les collectivités principalement, mais aussi entre l'État, les collectivités et les acteurs privés. Donc on est un centre de recherche et d'expertise. Donc c'est vrai que ça peut être sur des questions de bâtiment, d'expérimentation, d'évaluation. Moi je travaille plutôt sur les questions d'aménagement durable, depuis longtemps, trop longtemps à mon goût peut-être... par rapport aux résultats, mais c'est en train de changer, donc tant mieux. Notamment sur les questions de friche. Alors,
quand vous dites ça, vous parlez d'une forme de lassitude ou d'impatience ?
D'impatience, pas de lassitude, non, pas, ne t'inquiétez pas. Alors,
cette fameuse ZAN.
On m'a demandé de me parler d'un sujet, parce qu'on ne vous a pas encore assez énervé aujourd'hui avec toutes les injonctions qu'elle vous devait. Donc j'en rajoute une qui, je sais, fait un peu sujet, qui est celle du zéro artificialisation nette. Alors je vous ai quand même remis le texte de la loi climat et résilience. Alors on n'a pas attendu quand même la loi climat et résilience pour parler de la lutte contre l'étalement urbain, parce que déjà la loi SRU en parlait, et à mon avis si on fait un peu d'archéologie, ça doit faire un petit moment que c'est écrit dans le code de l'urbanisme, sauf qu'on le faisait pas vraiment non plus. Voilà. Nous, le CEREMA est impliqué sur la question de la mesure, essayant d'être neutre, voilà. Au moins mesurer de quoi on parle. Moi, j'ai entendu les propos de Philippe Madec. Premier objectif du manifeste de la frugalité, c'est préservons le sol. Voilà. On croit toujours en France qu'on a de la place, en fait. Pas tant que ça. Et on a besoin d'agriculture. Pour avoir juste quelques chiffres, j'avais dit que j'en donnerais, on a consommé 276 000 hectares entre 2009 et 2019. Et pour que vous compreniez ce que ça représente, c'est le département du Rhône. Et si on continue à ce rythme-là, c'est la Corse qu'on consomme. Et à 68%, c'est à destination de l'habitat. Donc c'est aussi pour comprendre ces sujets-là. Et quelque part, je me suis fait spoiler par mon voisin. Entre les logements vacants, alors je ne suis pas allée rechercher le chiffre, mais je partage le diagnostic, entre les bureaux vacants, et puis ce matin, on nous a dit qu'il y avait à peu près un quart des zones commerciales qu'il allait falloir recycler. Ça nous fait quand même pas mal de place. Plus quelques petites centaines de milliers d'hectares de friches qui traînent à droite, à gauche en France. Voilà, on m'a demandé de parler du ZAN. Je pense que voilà, on pourrait débattre très longtemps de comment on le mesure, de comment on le territorialise et de ces questions-là. Ça peut nous occuper un moment. Je pense que tout le monde est conscient depuis ce matin que les débats sont plus là. Maintenant, faut faire, faut arrêter de se demander si c'est comme ça qu'il faut le mesurer, comment on le territorialise. Par contre, voilà, c'était encore Christine Lecomte lors des architectes qui disait ce matin. Par contre, je pense que c'est la fin de la ville facile. C'est fini, la ville facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. La preuve, il y en a un observatoire entier. Côté CEREMA aussi, c'est nos missions d'observer, d'évaluer, de montrer que c'est possible. Mais ce n'est plus pareil.
Donc justement, en quoi ça modifie la façon de faire, le mode de faire la ville, pour reprendre le terme consacré ?
On nous a montré plein d'exemples. Alors parfois, c'est revenir à des choses de bon sens qu'on avait un peu oubliées. Parce que comme on avait la voiture, on pouvait se permettre d'aller loin pour faire nos courses. C'est ce qu'on nous a dit ce matin. Comme on avait des matériaux pas chers, eh ben, on a fait. Comme on avait la VMC, on a arrêté de mettre des fenêtres. Voilà, c'est aussi tirer peut-être, je pense, des enseignements de ce qu'on a su faire. C'est évaluer aussi, alors c'est un peu le cœur de nos métiers, c'est innover et évaluer. Et on en discutait en préparant. Le seul risque qu'on a, c'est de se tromper, mais si on fait rien, on se trompe. Donc autant faire. Et puis on a plein d'exemples, effectivement. Moi, j'ai pu visiter Val-de-Reuil. Entre autres, voilà, on a plein d'exemples pour pouvoir faire. Par contre, le vrai défi pour tout le monde, c'est l'existant. Les modèles économiques ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes. Mais je pense que ça nécessite les mêmes acteurs et la même intelligence. Donc, faut un peu changer sûrement de paradigme. Mais dans l'article du Monde dont vous citiez, le président de Bouygues était le premier à dire on va passer de 90% de neuf à 90% de réhabilitation. Donc, je pense que vous l'avez aussi commencé, cette mutation.
Merci beaucoup, Juliette.
Oui, j'ai un petit exemple par rapport à ce que disait Juliette. C'est aussi modifier les usages sans densifier. Deux exemples locaux. Certains d'entre vous connaissent l'association Les Bureaux du Cœur. Les Bureaux du Cœur, bah, finalement, c'est accepter quand nos bureaux sont vides, vides le soir, vide le week-end, et bien finalement d'accueillir des personnes qui sont des anciens SDF, des réfugiés politiques, demain des réfugiés climatiques. Finalement, c'est pas plus de mètres carrés, c'est des mètres carrés qui sont mieux utilisés. Et dans un autre exemple local aussi, il y a une maison familiale à Nantes qui a été transformée en maison fratrie, où finalement aujourd'hui c'est 5 jeunes actifs, 5 jeunes en situation de handicap avec une famille de 2 enfants. Donc ils étaient 4 avant, ils sont 14 aujourd'hui. Voilà, donc il y a des solutions innovantes avec des pas de côté pour faire finalement vivre un habitat plus inclusif, plus solidaire, plus utile. Voilà, en quelques exemples sur le ZAN, en fait il y a des solutions.
Merci beaucoup, de beaux exemples inspirants. Des questions, commentaires, envie de partager quelque chose, une petite lumière qui s'est allumée. On vient vers vous au premier rang et au deuxième rang. Les micros courent vers vous grâce à Delphine. Non, elles sont toujours là, tout va bien.
Oui, mais...
moi... Si c'est bon.
Oui, merci. Ça va. Moi, je voulais dire que tout ce que j'entends depuis ce matin converge vers une même chose. Ça me rappelle l'année 1991, où il y avait 2 millions de bureaux vides à Paris, la panique partout dans l'immobilier, et deux personnes de Nantes, Yves Gélusseau et Alain Mustière, et le président du CIO venait me voir en me disant « Jean, il faut qu'on monte quelque chose parce qu'on ne sait plus comment faire. On ne sait plus écouter qui. Et on ne sait plus quoi faire. Tout le monde nous dit « Voilà ce qu'il faut faire à Nantes, voilà ce qu'il faut faire à Nantes. Faut aller. » Alors il y en a un qui veut aller route de Paris, l'autre qui veut aller route de la Baule, l'autre qui veut aller vers la Beaujoire. On n'a plus d'idées. Et on a donc décidé de monter ce club. Je m'excuse, je peux parler 2 minutes. Voilà. Et je crois que nous avons fait un pas, c'est-à-dire que tout le monde est venu en disant nous sommes tous différents. C'est-à-dire que nous ne venons pas parce que nous sommes membres du CNAM, n'est-ce pas Jean-Michel ? Nous ne sommes pas membres de la FNPC, nous ne sommes pas membres des HLM, nous ne sommes pas membres de qui que ce soit. Nous regardons la ville. Nous allons en faire une analyse, une réflexion. Nous dirons ce à quoi nous sommes confrontés et nous irons l'exposer au pouvoir public, qui était évidemment preneur de nos réflexions et qui se disait c'est pas idiot, au moins on verra pas les notaires, les agents immobiliers, les promoteurs et chacun nous racontant sa sirène. Ainsi on a fait ce qui a été réalisé depuis 30 ans. Je crois on a noué une confiance réciproque entre les industriels, parce que quand on parle de logement, il faut aussi parler d'activité économique. Alors moi, je ne connais qu'un département en France qui a réglé ce problème, c'est la Vendée. 3% de chômeurs, tout le monde est logé, et on ne parle pas de problème. Donc je me dis, ce qui est fait en Vendée, on doit pouvoir le faire dans le département d'à côté. On n'est pas moins intelligent. D'ailleurs, un certain d'entre nous sont vendéens, donc on doit avoir gardé quelque chose. Et il faut qu'on se mette à travailler comme ça. Alors je ne ferai qu'une réflexion sur ce quoi le SINA peut avoir eu un jour une une opportunité. Tout le monde se souvient du plan Borloo. Il s'agissait de raser Malakoff et d'en faire autre chose. Certains se souviendront qu'il y avait une réunion, SINA, avec les collectivités locales, tout le monde, et on disait, va y avoir de l'argent, on va tout raser et on va faire quelque chose de neuf. Un promoteur, gros entrepreneur, qui est malheureusement est décédé depuis, disait, mais Jean, tu n'y comprends rien. On va faire quelque chose de neuf, tu vas voir, on va changer l'état d'esprit, tu vas pouvoir te promener, on va mettre des arbres, etc. Le problème n'est pas là, et le problème, il est les 150 voyous qui foutent le bordel à Malakoff. On croit que le problème des 150 voyous est à régler le problème de Malakoff. Mais puisqu'on veut le refaire, il faut le refaire. Mais j'ai qu'une crainte, c'est que je viens de passer dans un immeuble, c'est moi qui l'ai construit il y a 30 ans. Il est fini de payer. Et qui sait que l'État n'a plus de dette, ou la société d'HLM, vous le rasez, vous en faites un autre. Ah, ils m'ont dit, mais alors l'industriel, ah, c'est Michel Simon, le patron des FAG, je me dis, mais Jean, t'as rien compris, on va faire quelque chose de tout neuf. Ah, je dis, écoute Michel, tu rentres chez toi ce soir, tu dis à ta femme, j'ai fait un rêve extraordinaire. Écoute chérie, on a fini de payer la maison, on la rase, on en construit une autre et j'emprunte pour en construire une autre maison. Et il m'a dit, ah oui, non mais Jean, c'est pas pareil ça, c'est monsieur, oui, si, c'est ça. L'argent de l'État n'est pas le même, mais t'inquiète pas, ils viendront te le réclamer, c'est toi qui paieras. Et quelques jours après, nous lisions dans la presse que Jean-Marc Ayrault avait réfléchi et qu'il se disait qu'il ne fallait pas raser tout Malakoff. Je me disais que ce jour, la réunion du SINA avait eu quelque chose de positif. Et j'en viens là. Je trouve qu'ici, tout le monde a la vérité. Tout le monde a la vérité. J'ai entendu le maire de La Baule qui nous a expliqué qu'il n'avait pas de terrain pour construire des logements sociaux. Je comprends. On peut loger les estivants, mais on ne peut pas loger les cuisiniers. C'est normal. Excusez-moi, je suis un peu révolutionnaire.
Mais on
a parlé des SDF.
Désolée, je rappelle la notion du temps parce que c'est mon rôle, Jean. Il faut juste qu'on puisse prendre d'autres questions.
Deuxièmement, on entend les... Pardon ?
Non, je disais qu'il faut juste qu'on ait le temps de prendre d'autres questions.
Ah ben j'ai fini.
Voilà. Ah ben ça alors. Va. Ça va alors.
Oui, mais je vais en arriver à la solution.
Ah, mais c'est clair.
J'entends chacun dire c'est un problème, il faut qu'on change, on va faire des études, etc. Alors moi, je vais vous dire, il faut arrêter tout se réfléchir dans votre coin. Et ce qu'on a fait au SINA, il faut que l'État se mette autour de table avec les professionnels, avec les gens des organismes sociaux, avec les gens qui logent les clodos, et je sais ce qu'il en est, avec les gens qui font du syndic et qu'on se dise, voyons, dans ce pays, comment est-ce qu'on règle le problème de l'immobilier en France? Et on le réglera par deux cas, en alliant l'économique, le social, la construction, le logement, sans oublier de respecter l'environnement et le bien-être dans ce pays. Mais merci. Arrêtez chacun de travailler dans votre coin.
Oui.
Voilà, merci.
Voilà, merci du collectif. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était une réaction ou une question, mais on vous écoute. Bonjour.
Non, c'est plutôt des réactions à la table. Alors, effectivement, Jean, on travaille déjà... Tous ensemble, je me présente, je m'appelle Eric Bauchery, je suis chez Vinci Immobilier.
Merci.
Et je voulais répondre à l'interrogation de Juliette, de madame, qui disait on a gagné la guerre des idées, mais on n'a pas encore... est-ce qu'on va gagner la guerre du fer? Et moi, je pense que les promoteurs, de manière générale, hein, ont fait une vraie révolution culturelle, déjà depuis plusieurs années. J'en veux pour preuve, chez Vinci Immobilier, on s'est engagé sur le zéro artificialisation net en 2030. Et toutes nos opérations sont réfléchies, pas sans comité d'engagement, et sur un champ qui est... on ne peut plus faire d'opération. On passe plus, c'est plus l'engagement. Et je dirais même de manière plus générale, nos collaborateurs, les jeunes, nous poussent à ça. Je dirais que c'est devenu aujourd'hui le fil conducteur de nos opérations, de pouvoir... travailler sur le vertueux. Les rénovations, comme vous en parlez, on les pousse. On vient de livrer là une magnifique résidence senior à la place d'un d'un un peu moins magnifique bâtiment de la CPM qui était en plein centre-ville, en gardant la structure, etc. Je pense qu'il faut être confiant. Je pense qu'il y a plein d'idées qui génèrent. Les concours organisés par les collectivités nous poussent aussi à ça, hein, à faire de l'innovation. On a gagné il y a quelque temps un bâtiment tout en bois à Angers. La peur qu'on avait, en fait, c'est que les clients soient pas encore demandeurs de ce genre de choses. Et finalement, on l'a lancé le week-end dernier commercialement. C'est un peu plus cher que les autres bâtiments qui est alentour, mais ça fonctionne. Donc, soyez rassurés.
Merci pour cette petite touche d'optimisme. Juste derrière vous, je vois une main levée. Merci beaucoup. Bonjour.
Oui, bonjour. Hervé Létoré, CIC Ouest. Plusieurs points. Je vais aller dans le sens dont parlait Eric et puis aussi Alain. Gagner la guerre des idées, pour moi, c'est est-ce qu'on l'a bien gagné ? Dans le sens où gagner la guerre des idées, ça veut dire que derrière, effectivement, on les met en œuvre. Et on les met en œuvre quelles que soient les circonstances. Or, je prends des circonstances toutes simples. Le bio. Le bio était en train de gagner, de se développer énormément en France. Guerre de l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé ? On parle de restrictions, on parle de pénurie, on parle de pouvoir d'achat. Le bio se casse la figure complètement. Donc la guerre des idées, pour moi, elle n'est pas gagnée encore. Elle est peut-être gagnée dans certaines sphères, mais elle n'est pas gagnée au niveau de la population. À partir du moment où les gens peuvent se détourner de ces idées dès qu'il y a la moindre difficulté, on n'a pas encore gagné la guerre des idées. Elle n'est pas là. Deuxième point, quelque chose aussi qui m'a un peu interpellé. Alain en a parlé. Quand il a fait la frugalité. Et il a parlé de l'automobile et des Japonais qui ont dit effectivement, frugalité, dans les automobiles, on a 200 pièces, on va revenir à 50 pièces. C'est la technologie qui fait ça. Et vous avez dit moins de technologie. Là, ça m'interpelle un petit peu. Dernier point, je crois, et puis c'est pour aller dans le sens de Jean, où vous avez parlé des banques en disant on attend quelque chose des banques. On est autour de la table. Jean est un banquier qui est à l'origine de la création du SINA. Donc, qu'est-ce que vous attendez des banques ? Enfin, voilà, plusieurs aspects.
Est-ce que quelqu'un a envie de répondre ? Philippe ?
J'attends un Grenelle du financement du logement, figurez-vous. Et donc, je ne vais pas vous donner toutes les réponses, là. Mais on sait très bien le poids des banques dans les engagements sur des projets qui sont environnementaux. Je le vis à chacun de mes projets. Donc, voilà. Je comprends que vous ayez été à la fois sur ces trois points un peu houspillé ou je sais pas ou gêné.
Interpellé.
Mais oui, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici là ? On est en train de montrer que les idées ont leur place et ont gagné. Elles sont là, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et vous voyez, on en parle. C'était pas comme ça avant. Hein. Je veux dire, depuis un an et demi, j'ai présidé les pyramides d'argent. Jamais on aurait pu penser que Philippe Madec allait faire ça. J'ai été invité en Occitanie par vos confrères. Je me retrouve ici aujourd'hui. J'ai été invité aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pas moi qui le cherche. C'est qu'il y a quelque chose qui se partage aujourd'hui. Et en général, les plus jeunes, et vous en avez parlé, monsieur, les plus jeunes portent cette demande-là, cette attente à laquelle nous, on essaie de répondre du mieux que l'on peut. Mais la demande, elle est là. Les idées, excusez-moi, on n'est pas d'accord sur ça, mais c'est pas grave, on n'a pas à être tous d'accord. Les idées sont en place. Il y a des échos partout. Et ce qui est en jeu, c'est de faire en sorte que ça devienne physique, matériel et vécu. Et ça, c'est pas gagné. Et ça ne peut gagner que, et je suis d'accord avec vous, monsieur, sur ça, sur le fait que nous devons tous faire ça ensemble. Quand ça marche pas, et c'est peut-être là que je diffère un peu de vous, quand ça marche pas, j'attends pas l'autorisation de faire différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes... voilà. Mais ça, vous pouvez le comprendre. J'ai bien compris que vous avez pris aussi des décisions qui n'étaient pas celles qu'on pouvait attendre de vous. Aujourd'hui, si on n'a pas cette liberté de faire autrement, on va pas y arriver. Mais si on le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas du tout non plus. Quoi. Et donc, après, je sais plus le troisième point, voilà. Oui, la frugalité technique. Pourquoi est-ce que la technique est toujours du high-tech ? Voilà. Elle peut être du low-tech.
J'aime aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le milieu, le chemin du milieu.
The right tech.
Right tech.
En fait, le low-tech, high-tech, qui est grosso modo ce que l'on lit aujourd'hui beaucoup, hein, le low-tech, enfin, Philippe Buix, enfin, oui, tout. High-tech et low-tech, ce sont deux visions de la technologie qui sont arrivées dans les années 80 du siècle passé. Elles sont arrivées, elles ont émergé ensemble comme l'une opposée à l'autre. On va dire les Anglais avec le high-tech et puis les babacool américains avec le low-tech. Enfin, c'est vite dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Moi, ces oppositions-là, ça ne m'intéresse plus beaucoup parce que je pense qu'on va perdre trop de temps à essayer d'aller entre la ville intelligente et puis la ville sans technologie. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'appelle le right tech. C'est la technique juste. Et justesse et frugalité, pour nous, c'est ça. En fait, il faut choisir la bonne technique pour répondre à une question qui a été posée. Cette technique, on l'utilise dans une juste quantité. Et on l'utilise au juste prix. Et ça rend les projets d'un seul coup beaucoup plus riches. Quoi. Le tout béton, enfin, excusez-moi, mais il y a des moments, je traverse des villes où je suis ahuri de voir des bâtiments béton, façade, sol, refend. C'est incroyable, quoi. Que l'on soit à ce point dans la paresse de la pensée et même dans la paresse du faire et de la matière, quoi. Alors que le right tech, qui est, on va dire, de l'intelligence de la technique, parce que la technique, c'est notre manière de parler avec la nature. Hein. C'est une vieille histoire comme ça, mais et elle est là. Enfin, vous connaissez pourquoi nous, on a besoin de la technique. Quand les dieux grecs ont réparti les savoirs entre tous, ils avaient oublié les humains. On est ceux qui ont eu les dernières choses. Quoi. Et on a un certain nombre de faiblesses que l'on essaie de compenser par ce qu'ils ont chopé chez l'un des dieux, qui était la technique. Et donc, on est fasciné par la technique, qui est la seule manière pour nous de compenser nos faiblesses. Mais bon, ça, on peut le maîtriser, quoi. Et je pense qu'au XXIe siècle, on peut le maîtriser en choisissant de right tech.
Merci beaucoup. Un
mini exemple sur la technique aussi. Enfin, moi ou mes confrères, on utilise des applications mobiles que nos usagers peuvent télécharger, locataires, copropriétaires, et ça nous permet de plugger derrière avec d'autres solutions. Véliflex quand il y a des vélos partagés, Zenpark quand il y a des voitures partagées, Manon est là, Box in Service quand dans des immeubles il y a de la conciergerie ou d'autres associations, Beautiful quand il y a des serres partagées. Donc on voit bien que la technique pour communiquer, être transparent, c'est aussi essentiel. L'humain et la technique ensemble.
Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées tout de suite. Je ne veux pas créer de frustration, mais ce que je vous propose, c'est qu'on applaudisse et qu'on remercie chaleureusement nos intervenants. Un grand merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci Philippe. Vous restez avec nous encore.